Selon la plupart des estimations, il y a de par le monde plus de 2 milliards de personnes qui se réclament du christianisme. Selon le World Christian Encyclopedia, on compte dans ce groupe plus de 33 800 confessions distinctes. Elles se disent toutes chrétiennes, bien qu'elles aient souvent des croyances et des enseignements tout à fait différents et même opposés. Or, par définition, un chrétien doit vivre conformément aux enseignements et à l'exemple du Christ. Il doit d'abord croire qu'il existe et bien sûr connaître le véritable Jésus. Malheureusement, la plupart croient en un Jésus qui n'est pas celui de la Bible, un Jésus de contrefaçon, imaginé par les humains. C'est pourquoi, dans 2 Corinthiens 11, versets 3 et 4, l'apôtre Paul a averti les chrétiens de la ville de Corinthe de ne pas tomber dans ce piège. « Je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous vous avons prêché, vous le supportez fort bien. » Il est clair que certains membres de l'Église s'étaient déjà laissés séduire par la fausse idée d'un Jésus qui n'était pas du tout conforme à la réalité. Les Corinthiens acceptaient le concept d'un autre Jésus. C'est la même chose aujourd'hui. Aussi choquant que cela puisse paraître, de nombreux chrétiens acceptent, sans même s'en rendre compte, un autre Jésus que celui décrit dans les Écritures. Personnellement, c'était mon cas. Avant d'avoir ouvert les pages de la Bible pour vérifier par moi-même qui est réellement Jésus, plutôt que de tenir pour acquis ce qu'on m'avait enseigné. Qu'en est-il de vous? Savez-vous vraiment qui est Jésus? Ce qu'il était avant de prendre une forme humaine? Et pourquoi il est venu sur la terre il y a plus de 2000 ans? Savez-vous à quoi il ressemble aujourd'hui? Ce qu'il fait en ce moment? Et ce qu'il va bientôt accomplir sur la terre? Que vous le réalisiez ou non, tout ceci a un rapport direct avec vous personnellement. Même si vous pensez honnêtement et sincèrement connaître le Christ, vous serez sans doute étonné de découvrir ce que nous verrons dans l'émission d'aujourd'hui. Restez à l'écoute. Salut à vous! Savez-vous d'où lui est venu le nom de Jésus? Directement du Dieu suprême, par la bouche de son envoyé, l'ange Gabriel, venu annoncer à Marie qu'elle allait devenir enceinte selon le plan de Dieu. Dans Luc 1, à partir du verset 30, nous lisons « L'ange lui dit, « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. » Et tu lui donneras le nom de Jésus. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura pas de fin. Remarquez que cette annonce révélait en même temps les deux venues principales de Jésus sur la terre, marquant deux étapes majeures du plan divin. D'abord sa naissance en tant qu'être humain, il y a 2000 ans, puis sa seconde venue, où il établira bientôt son règne sur la terre. C'était aussi l'accomplissement précis d'une annonce que le prophète Ésaïe avait faite 700 ans auparavant. Ésaïe 7, verset 14. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la Vierge deviendra enceinte. Elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Dans l'Ancien Testament, nous trouvons plus de 100 prophéties annonçant la venue du Messie, ce qui prouve non seulement l'existence de Jésus, mais nous montre aussi, hors de tout doute, le déploiement de la puissance de Dieu afin de réaliser son plan pour l'humanité. Par exemple, Zacharie 9, verset 9, a annoncé clairement que Jésus, lors de sa première venue, allait un jour, sous les acclamations de la foule, entrer dans Jérusalem, monté sur un ânon. Voici, ton roi vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un âne, le petit d'une ânesse. Le chapitre 21 du livre de Matthieu décrit la réalisation de cette prophétie. Une autre prophétie de l'Ancien Testament, dans Zacharie 11, versets 12 et 13, prédisait que Jésus serait trahi pour 30 pièces d'argent. « Je leur dis, si vous le trouvez bon, donnez-moi mon salaire. Sinon, ne le donnez pas. » Et ils pesèrent pour mon salaire 30 sicles d'argent. L'Éternel me dit, « Jette-le au potier, ce prix magnifique auquel ils m'ont estimé. » Et je pris les 30 sicles d'argent et je l'ai jeté dans la maison de l'Éternel pour le potier. La chose s'est réalisée lorsque Judas a reçu 30 pièces d'argent des principaux sacrificateurs pour trahir Jésus, comme on le voit dans Matthieu 27. Ces prophéties, annoncées très longtemps d'avance et accomplies en leur temps, prouvent l'existence de Jésus, de même que l'authenticité et l'exactitude de la parole de Dieu. Par ailleurs, plusieurs sources extérieures aux Écritures confirment également que Jésus est un personnage important qui a réellement existé. Pline le Jeune, qui vécut au premier siècle après Jésus-Christ, était un brillant orateur, auteur de plusieurs ouvrages. L'Encyclopédie Larousse mentionne « Les lettres de Pline manquent de spontanéité, mais elles nous aident à nous faire une représentation exacte de la société romaine de la fin du 1er siècle et du début du 2e siècle. Un 10e livre traite de l'administration des provinces et du traitement des chrétiens. » Voilà qui atteste historiquement de la présence des chrétiens, les disciples de Jésus, le Christ. Pour sa part, l'historien Tacite raconte les événements entourant l'incendie qui a détruit la moitié de Rome durant le règne de Néron en l'an 64 de notre ère. Beaucoup de Romains croyaient que l'incendie avait été ordonné par Néron pour différentes raisons, mais pour calmer les rumeurs, l'empereur se mit à blâmer et à persécuter les chrétiens. Pour apaiser ces rumeurs, il, Néron, offrit d'autres coupables et fit souffrir les tortures les plus raffinées à une classe d'hommes détestés pour leurs abominations et que le vulgaire appelait chrétiens. Ce nom leur vient de Christ qui, sous Tibère, fut livré au supplice par le procurateur Pontius Pilatus. De son côté, l'historien juif Flavius Joseph, qui a écrit au premier siècle de notre ère, mentionne Jésus à quelques reprises dans ses écrits. Voici un passage où il mentionne Jacques, le frère de Jésus. Il, le grand prêtre, prit le temps de la mort de Festus et qu'Albinus n'était pas encore arrivé pour rassembler un conseil devant lequel il fit venir Jacques, frère de Jésus, nommé le Christ, et quelques autres, les accusa d'avoir contrevenu à la loi et les fit condamner à être lapidés. Le docteur Albert Schweitzer, philosophe, théologien et médecin missionnaire en Afrique, a écrit un livre en 1906 intitulé « The Quest for the Historical Jesus ». Non seulement était-il convaincu de l'existence de Jésus, mais ses recherches l'ont amené à conclure que le Jésus de la Bible est très différent du Jésus présenté par le christianisme traditionnel. Dans le prochain segment de l'émission, nous verrons en détail comment le véritable Jésus est tout à fait différent de l'idée que les gens en ont. Je sais que certaines choses vous surprendront, vous étonneront même beaucoup, mais vous pourrez les vérifier vous-même dans les pages de votre Bible.
Pour en apprendre davantage sur le thème traité au cours de cette émission, commandez, sans aucune obligation de votre part, notre brochure gratuite Jean 3:16. Celle-ci contient des informations importantes pour comprendre qui est le véritable Jésus. Composez le numéro de téléphone apparaissant à l'écran. Vous pouvez aussi télécharger cette brochure à partir de notre site Internet. Jean 3:16. Appelez dès maintenant.
Vous êtes-vous déjà demandé qui était Jésus avant de naître sur la terre en tant qu'être humain? La Bible répond à cette question dans Jean 1, versets 1 à 3. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Nous voyons que, de toute éternité, deux êtres spirituels divins ont existé, avant que rien d'autre ne soit amené à l'existence. Le premier est ici appelé Dieu, Théos en grec. C'est le gouverneur de l'univers. Le second est appelé la parole, Logos en grec, c'est-à-dire le porte-parole de ce gouverneur. Donc, la divinité éternelle est composée de deux êtres divins, le deuxième étant soumis à l'autorité du premier. Nous voyons aussi que tout ce qui fut amené à l'existence a été créé par le porte-parole, par celui qui devint plus tard Jésus dans la chair humaine. Il a agi en tant qu'agent créateur pour le gouverneur de l'univers. Cela nous est confirmé dans Hébreux 1, verset 2. Dieu, dans ses derniers temps, nous a parlé par le Fils. Il l'a établi héritier de toutes choses. Par lui, il a aussi créé l'univers. Au verset 5 et 10 du même chapitre, le Père parle d'ailleurs de son Fils comme étant celui qui a créé l'univers. « Tu es mon Fils, je t'ai engendré aujourd'hui. » « Toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. » Ce n'est donc pas le Père qui a procédé à la création, comme plusieurs le croient. Colossiens 1, à partir du verset 15, nous confirme la même chose. Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose, et toute chose subsiste en lui. Dans Jean 1, commençant au verset 10, l'apôtre confirme à son tour que c'est la parole qui a tout créé. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Reportons-nous à Genèse 1, verset 1, et voyons le récit de la création de l'univers par la parole, celui qui allait devenir beaucoup plus tard Jésus. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Tous les érudits savent que le mot hébreu traduit ici par Dieu est Elohim, comme c'est le cas des mots église, couple ou famille. Ce nom a un sens pluriel et désigne plus d'un individu. Une famille comprend plus qu'un seul membre. Même si ce fut la parole qui procéda à l'acte de création, l'autre être divin était à ses côtés. On le voit encore clairement un peu plus loin, au verset 26, du même passage, lequel décrit la création de l'homme. Puis Dieu dit, « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Notez bien qu'il est dit « Faisons l'homme à notre image. » Donc, les deux êtres divins éternels, le gouverneur et son porte-parole, sont tous les deux inclus dans ce passage. De toute évidence, ils avaient conçu et planifié ensemble la création de toutes choses. Allons plus loin. Pour mieux comprendre ce que le Logos, le porte-parole, a fait tout au long de l'histoire de l'Ancien Testament. Dans la Bible, il est régulièrement appelé l'Éternel. Comme nous le verrons, c'est lui qui traitait avec les êtres humains, notamment avec la nation d'Israël et avec ses prophètes. Avant la destruction de Sodome et Gomorre, c'est lui qui, accompagné de deux anges, est apparu à Abraham sous une forme humaine pour lui révéler certaines choses. Genèse 18, versets 1 à 3. L'Éternel lui apparut parmi les chênes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et regarda, et voici, trois hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux, depuis l'entrée de sa tente, et se prosterna à terre. Et il dit, « Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. » Au verset 22, nous voyons que les deux anges partirent ensuite en direction de Sodome, mais que l'Éternel resta encore un peu en compagnie d'Abraham. Les hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodome, mais Abraham se tint encore en présence de l'Éternel. Il est certain qu'Abraham était ici en présence de celui qui devint plus tard Jésus-Christ. D'ailleurs, le Christ l'a lui-même confirmé en disant aux Juifs dans Jean 8 à partir du verset 56, « Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. » Les Juifs lui dirent, « Tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham? » Jésus leur dit, « en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. » Là-dessus, ils prirent des pierres pour les jeter contre lui. Mais Jésus se cacha et il sortit du temple. Ces Juifs ne comprenaient pas que l'Éternel de l'Ancien Testament était devenu, dans la chair humaine, ce Jésus qui était au milieu d'eux et qui leur affirmait avoir connu leur ancêtre Abraham. Ce passage devient clair seulement lorsque l'on comprend que c'est Jésus qui était l'Éternel de l'Ancien Testament, le Dieu d'Israël. Abraham n'était pas en présence de Dieu le Père, car le Père n'est jamais venu sur la terre, et personne ne l'a vu, comme c'est écrit dans Jean 1, verset 18. Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, le Fils unique, qui est dans le sein du Père, est celui qui l'a fait connaître. Selon son plan, le Père viendra sur la terre, mais plus tard, c'est-à-dire un peu après le premier millénaire du règne du Christ sur notre planète, comme il est écrit dans Apocalypse 21. Voyons à présent, dans le Nouveau Testament, un autre passage qui confirme que celui qui est devenu Jésus était bel et bien le Dieu de l'Ancien Testament, Yahvé, YHWH en hébreu, traduit en français par l'Éternel. Dans 1 Corinthiens 10, versets 1 à 4, l'apôtre Paul écrit « Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. » Ce passage correspond exactement à ce que le Christ, l'Éternel, a fait pour eux, en les guidant et en les protégeant lors de leur sortie d'Égypte, comme le montre Exode 13, verset 21. L'Éternel allait devant eux, le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchent jour et nuit. L'être spirituel qui conduisait l'ancienne nation d'Israël était celui qui devint le Christ. Jésus-Christ est le fondement et le point central du plan que le Père accomplit par lui et pour lui. La brochure que nous vous offrons aujourd'hui a pour titre « Jean 3, 16 ». Vous y trouverez des explications importantes concernant le plan de Dieu. N'hésitez pas à en faire la demande. Vous y trouverez d'autres révélations bibliques surprenantes.
Pour connaître les vérités cachées de ce verset populaire, demandez notre brochure gratuite Jean 3, 16. Composez le numéro de téléphone apparaissant à l'écran ou téléchargez le texte à partir de notre site Internet. Vous recevrez aussi sans frais la revue Le Monde de demain, qui vous fournira des informations pertinentes relatives à l'existence humaine et à ce que nous réserve l'avenir. Appelez dès maintenant.
Personnellement, j'ai été éduqué dans un environnement chrétien traditionnel. Toutefois, lorsque j'ai commencé à vérifier ce que la Bible dit réellement au sujet de Jésus, j'ai réalisé une chose surprenante. L'idée que je m'étais faite jusque-là concernant le vrai Jésus était tout à fait fausse. Se pourrait-il que ce soit aussi votre cas? En lisant vous-même la Bible, vous serez surpris de découvrir que les images, les concepts et les enseignements populaires présentés par le christianisme traditionnel sont très différents des vérités contenues dans les Écritures. C'est pourquoi le monde a une fausse image de Jésus. Le Christ est régulièrement présenté comme étant un homme faible, hésitant, plutôt efféminé, au teint clair, aux longs cheveux. Or, la Bible montre tout à fait le contraire. Il était charpentier, maniant le rabot, la hache et les lourds outils de l'époque où tout se faisait manuellement. Il était donc musclé et viril. C'est pourquoi personne n'osa s'opposer à lui quand il renversa les tables des changeurs qui s'étaient installées dans le temple. Voyez ce que rapporte Jean 2, versets 13 à 15. Jésus monta à Jérusalem. Il trouva dans le temple les vendeurs de bœufs, de brebis, de pigeons et les changeurs assis. Ayant fait un fouet avec des cordes, il les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa les tables. Il est évident que Jésus n'a pas supplié doucement tous ces marchands de partir. Avec autorité et une grande force physique, il a renversé les tables, chassé les animaux, et tous les marchands apeurés se sont enfuis. Avait-il un teint clair, même blafard, comme le montrent les images? Au contraire, son teint était celui des Juifs du Moyen-Orient, un teint naturellement basané. Peut-être serez-vous surpris d'apprendre qu'il n'avait pas non plus de longs cheveux. L'apôtre Paul explique que la chevelure de la femme lui sert de voile, de parure, mais que l'homme doit au contraire porter les cheveux courts. 1 Corinthiens 11, versets 14 et 15. La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux, mais que c'est une gloire pour la femme d'en porter, parce que la chevelure lui a été donnée comme voile. Comme moi, vous avez sans doute pensé sincèrement que le Christ est venu sur la terre il y a 2000 ans pour convertir le monde, pour le changer et pour apporter la paix. Or, ce n'est pas le cas. Il est venu pour donner sa vie et payer ainsi l'amende de nos fautes, afin que nous puissions être pardonnés au moment de notre baptême, après notre repentir, lorsque Dieu nous appelle. Jean 3, 16 rapporte « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Il avait aussi pour mission d'annoncer la bonne nouvelle d'un futur gouvernement mondial divin, lequel sera bientôt établi sur la terre, à notre époque. Son message est résumé dans Marc 1, verset 15. Il disait, « Le temps est accompli, et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » Il est clair qu'il ne suffit pas de croire. Il faut aussi nous repentir, c'est-à-dire regretter d'avoir transgressé les lois divines et changer de comportement. Il est possible de recevoir le pardon de tous nos anciens péchés, d'être libéré de la douleur de la culpabilité et de changer de vie pour le mieux. Pour y arriver, il ne suffit pas de croire, comme Jésus le déclare dans Luc 6, verset 46. « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? » Si on ne met pas réellement et complètement en pratique les lois et les enseignements du Christ, il nous dit que notre religion est vaine, inutile, comme il est écrit dans Matthieu 15, au verset 8 et 9. « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore, en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. » La Bible nous montre clairement que Jésus avait des frères et des sœurs. Après la naissance du Christ, Marie et Joseph eurent d'autres enfants. Dans Matthieu 13, versets 55 et 56, les gens étonnés par ses miracles et sa sagesse parlent de sa famille. N'est-ce pas le fils du charpentier? N'est-ce pas Marie qui est sa mère? Jacques, Joseph, Simon et Jude ne sont-ils pas ses frères? Et ses sœurs ne sont-elles pas toutes parmi nous? D'où lui viennent donc toutes ces choses? D'autres versets bibliques, ainsi que des documents historiques, attestent que Jésus avait bel et bien des frères et des sœurs. Qu'en est-il de la loi de Dieu, les 10 commandements? Plusieurs prétendent que cette loi a été abolie et que les 10 commandements ne sont plus nécessaires en tant que modèle de vie chrétienne. Or, qu'est-ce que Jésus a répondu au jeune homme riche qui lui demandait ce qu'il faut faire pour obtenir un jour la vie éternelle? Matthieu 19, 17 rapporte, « Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. » Dans Matthieu 5, verset 17, Jésus déclare « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. » Les Écritures nous montrent que le Christ et ses disciples observaient les commandements, y compris le sabbat hebdomadaire, de même que les fêtes décrétées par Dieu, qui sont des sabbats annuels. À travers les siècles, la petite Église de Dieu a toujours observé le sabbat. Si je vous demandais à présent pour quelle raison Jésus parlait régulièrement en parabole, c'est-à-dire en utilisant des comparaisons imagées, vous répondriez sans doute, comme je le faisais avant de vérifier, pour que les gens puissent mieux comprendre ses enseignements. Encore là, les Écritures nous révèlent le contraire. Voyez ce qui est écrit à ce sujet dans Matthieu 13, versets 10 et 11. Les disciples s'approchèrent et lui dirent, « Pourquoi leur parles-tu en parabole? » Jésus leur répondit, « Parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux et que cela ne leur a pas été donné. » Selon le plan divin, ce n'est qu'après le retour prochain du Christ sur la terre que tous les êtres humains seront appelés, qu'ils observeront le sabbat et chercheront à comprendre la vérité. Ésaïe 66, verset 23 déclare « À chaque nouvelle lune et à chaque sabbat, toute chair viendra m'adorer, dit l'Éternel. » Pour le moment, peu de gens connaissent le vrai Jésus et son message, mais parce que disent réellement les Écritures, vous pouvez découvrir qui il est vraiment et développer avec lui un lien personnel. Joignez-vous à nous chaque semaine à l'émission « Le monde de demain ». Nous continuerons de partager avec vous les enseignements de Jésus-Christ et la signification des prophéties des temps de la fin. Nous vous invitons à être des nôtres pour découvrir la perspective divine concernant les événements qui marquent l'actualité, les vérités bibliques et la vie chrétienne. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. Même heure, même station.
Visitez notre site Internet pour lire ou commander la brochure intitulée « Jean 3,16 ». Cette publication gratuite vous permettra de comprendre qui est réellement celui que l'on appelle le Christ. Composez le numéro de téléphone apparaissant à l'écran ou téléchargez le texte à partir de notre site Internet. Notre site vous offre de multiples ressources révélant les principes divins qui mènent à une vie abondante et heureuse. En plus de vous fournir une perspective unique sur les événements mondiaux actuels et futurs. Vous recevrez aussi sans frais la revue « Le monde de demain » qui contient les informations pertinentes relatives à l'existence humaine et à ce que nous réserve l'avenir. Notre cours de Bible en 24 leçons explorant des thèmes importants pour votre futur est aussi disponible. Appelez dès maintenant. Cette émission est produite par l'Église du Dieu vivant.